Radio Kapi. Oh,
Kapi. À la présentation, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, la cité de Sake accueille 6000 nouveaux ménages fuyant les affrontements dans les territoires de Massissi. Ils s'ajoutent aux milliers d'autres qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles selon la société civile de Kamuronza. Les candidats aux prochaines élections en RDC sont appelés à faire preuve de tolérance et à privilégier le vivre ensemble. Appel lancé à Lubumbashi par le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga en vue de la bonne tenue de la campagne électorale. Notre invité, c'est le coordonnateur du projet de soutien au PDDRCS au sein de la MONUSCO, Michael Nollet, assure que ce projet va donner de l'emploi aux ex-combattants et aux personnes vulnérables recrutées dans la communauté locale, principalement les femmes et les jeunes. Madame, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, plus de 6000 nouveaux ménages fuyant les affrontements sont arrivés à Sake dans le territoire de Massissi. Ils s'ajoutent aux d'autres milliers qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles selon la société civile de Kamuronza. Le gouvernement provincial leur a apporté hier, mercredi après-midi, une assistance d'environ 6 tonnes de vivres et de non-vivres. Cependant, les besoins sont immenses. Pour en parler, retrouvons à Goma Denis Oulukesso.
Ils sont environ 10 000 ménages qui ont abandonné leur village et fuyant l'intensification des combats autour de Kilolirwe depuis 2 semaines maintenant. Dans la cité de Sake, ils sont disséminés dans 4 sites spontanés, Kizimba, Zaina, Kabiringa et Mahoutia notamment. D'autres dans des centres collectifs de l'EPE Kamuronza et Institut Kiluku. Alors que d'autres encore sont dans des familles d'accueil, ils sont dépourvus de tout. Pour atténuer leur souffrance, le gouvernement provincial leur a distribué quelques kilogrammes de vivres et non-vivres constitués de riz, haricots, farine de maïs, l'huile végétale et de sel de cuisine. Ils avaient ceci à dire.
Nous vous remercions d'abord de votre visite dans notre site de Kizimba. Nous avons vu et reçu l'assistance que vous nous apportez. Nous disons merci et vous demandons de songer à nous encore prochainement. Nous sommes contents de recevoir l'aide du gouvernement provincial dans notre site. Grand merci à notre gouverneur qui a pensé à la souffrance de la population ici. Chacun a reçu 1 kg de haricots, une bouteille d'huile, un sachet de sel et un peu de riz.
Plusieurs autres besoins primaires, surtout en eau potable, latrines et autres, restent à couvrir. D'où les plaidoyers de la société civile aux humanitaires en leur faveur. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Nouveaux affrontements signalés ce jeudi entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux sur l'axe Kichanga-Muhanga dans le groupement de Bachalimokoto, territoire de Massissi au Nord Kivu. Ces combats sont signalés également autour du pont de Matkatanda, à environ 5 km de la localité de Muhanga, chef-lieu du groupement de Bachalimokoto. Faisons le point de la situation avec vous, Bernard Nyangi.
Les rebelles du M23 qui auraient lancé cette attaque et cibleraient l'occupation du centre de Muhanga et Kirumbo plus loin, estiment plusieurs sources locales. Elles précisent tout de même que ces rebelles feraient face à une intense résistance des combattants locaux autour du pont Katanda où, jusqu'à 12 heures locales ce jeudi, les combats étaient encore violents. Pendant ce temps, la situation reste tendue sur l'axe Nyamitaba-Kisovu-Nyakariba dans le groupement voisin de Bachalikaembe, qui a été le théâtre des affrontements toute la journée hier mercredi. Ces nouveaux combats intensifient le mouvement des populations déjà décriées dans cette région de Massissi. Les habitants de villages environnant Muhanga et Kibatiro prennent la direction notamment de Mukoto Monastère, Kaira et Kirumbu. Ceux venus de la zone de Nyamitaba, eux, prennent la direction de Mueto et d'autres vont jusqu'à Sake. Alors que les sources locales accusent les rebelles de multiplier des attaques simultanées contre l'armée congolaise et les groupes armés locaux, les rebelles de leur tour parlent des menaces et des bombardements de leur position dans la zone auxquelles ils y répondent. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ces temps en Ituri, la cour militaire a rendu son jugement mardi après-midi sur les dossiers de 4 militaires des FARDC et 8 rebelles ougandais de l'EDF qui étaient poursuivis pour crimes de guerre commis lors des affrontements entre les communautés locales. C'était au cours des audiences foraines tenues du 22 au 28 novembre à Chomia avec le soutien de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Reportage à Bounia d'Isaac Remoyope.
5 dossiers ont été traités par la cour militaire de l'Ituri au cours des audiences tenues à Tchoumia, à 60 km au sud de Bounia, au bord du lac Albert. Parmi les prévenus, il y a un rebelle ADF qui a interjeté appel, qui est condamné à 20 ans de prison pour crime de guerre par pillage et participation au mouvement insurrectionnel. Cette juridiction a confirmé la sentence du tribunal militaire au premier degré de 10 ans à la peine à perpétuité pour les 7 autres rebelles ADF qui n'ont pas interjeté appel. 3 militaires des FARDC ont écopé la peine de 20 ans de prison pour crime de guerre par meurtre, pillage, viol et destruction. Selon la justice, 254 victimes ont été identifiées dans ces dossiers qui ont bénéficié de la somme de 1 979 000 dollars américains de dommages et intérêts. Un autre militaire a été également condamné à la peine à perpétuité pour le meurtre de 13 civils dans une localité lacustre. Ces audiences se sont déroulées avec l'appui technique, logistique et financier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO en vue de lutter contre l'impunité, affirme Jean-Marius Saint-Port, magistrat et conseiller aux poursuites dans cette section. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Politique à présent, les membres des partis politiques et les candidats aux prochaines élections sont appelés à faire preuve de tolérance et à privilégier le vivre ensemble. Appel lancé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga à travers son ministre de l'Intérieur qui invite les uns et les autres à plus de responsabilités et au respect de la loi pour que la campagne actuelle, la campagne électorale, se passe dans l'ordre et la discipline. Les propos d'héritier Kyungu Kibwe ont été recueillis par Jean Ngandouka Bongo.
Cet accompagnement a pour objectif final le bon déroulement de la campagne électorale qui doit se faire dans la sérénité, l'ordre et la paix. Dans cet ordre d'idées, il est demandé à toutes et à tous d'observer la tolérance et le vivre ensemble, non seulement entre les communautés, mais également entre les militants des partis politiques et leurs candidats respectifs, afin que la campagne électorale puisse se réaliser dans une quiétude parfaite pour les uns et pour les autres. Les leaders des partis politiques sont donc vivement invités à respecter rigoureusement la discipline par leurs membres. Par conséquent, une mise en garde est faite à quiconque se lancerait dans des provocations de tout genre, notamment par des messages haineux, par des discours séparatistes ou par l'incitation à des projets tendant à porter atteinte à l'ordre public, à la paix et à l'unité nationale. Ainsi, le gouvernement provincial invite chacun et chacune à observer scrupuleusement les recommandations du Code de bonne conduite sous peine des sanctions sévères conformément à la loi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 74 000 habitants du groupement de Bassoa Madiwe dans le secteur de Benimbao peinent actuellement à obtenir les duplicata de leur carte d'électeur perdue ou illisible. Le président de la société civile locale met la CENI devant ses responsabilités. Justin Paluku Kavalami est au micro de Marc Marofimo.
Le groupement Bassoa Madiwe, c'est un groupement qui est épais, vaste. Alors, il est très difficile à expliquer à un habitant de Chavetondo, de Cantine, de Mabalako, qui a perdu sa carte d'électeur ou bien qui détient une carte d'électeur falsifiée, de se rendre à Ouicha ou bien à Mankina. Parce que, vu la distance que cette personne va parcourir, ça va encore lui faire pénaliser avec surtout nos moyens qui sont limités. Tout en voyant cette difficulté, nous sommes en train de demander aux autorités de CENI de diligenter même une équipe qui peut venir pour évaluer l'état des besoins. Et s'il est même possible qu'on nous amène une machine qui va faciliter les habitants de Mabalako, de Cantine, de Chaveso, de Chitobiro, de Nkazi, de trouver au plus vite possible les cartes duplicata. Et ça va même faciliter à ce que ces derniers puissent participer avec assurance aux élections qui pointent à l'horizon.
Notez qu'une machine pour imprimer les duplicata des cartes d'électeurs est installée au bureau du secteur de Benimbao, situé à plus ou moins 70 km de Mabalako, une distance qui est difficile à parcourir par les requérants. La campagne électorale est entrée dans sa deuxième semaine. Ici à Kinshasa, ce n'est pas encore la grande mobilisation. À l'exception de quelques réunions ou des courtes caravanes motorisées, ce sont plus les panneaux, les affiches et les calicots des effigies des candidats aux différentes élections de décembre prochain qui se multiplient sur les principales artères de la capitale congolaise. Explication de Babel Mpongo Massimango.
Pour de nombreux Kinois, la réelle ambiance de la campagne électorale n'est pas encore au rendez-vous.
Bon, c'est un peu timide, hein? Il n'y a pas d'engouement.
La campagne électorale, elle est froide jusqu'à présent. Je ne vois pas un député faire des campagnes comme ça a été à l'époque.
Ce qui indique qu'elle est en cours, ce sont plus les affiches et autres panneaux aux effigies des candidats. De temps en temps, des individus passent soit à pied avec un mégaphone, soit en petite caravane de deux ou trois véhicules avec panneaux, soit en moto appelant à voter pour tel ou tel autre candidat. On aperçoit aussi de plus en plus de jeunes, une dizaine tout au plus, portant polo et casquette aux couleurs d'un candidat, se précipitant pour se rendre à un rendez-vous. C'est le cas de celui-ci.
Nous allons sur l'avenue Maringa pour une propagande. Qu'est-ce que vous allez y faire? Bon, il nous a invités, on les saura sur place.
Certains candidats sous anonymat disent être en retard puisque l'argent attendu de leur regroupement politique traîne à arriver. Je me suis autofinancé jusque-là, a dit l'un d'eux, mais là je suis à bout. D'autres stratèges disent attendre la semaine prochaine pour se lancer. On dépense moins tout en marquant l'esprit des électeurs jusqu'au vote. Notez que beaucoup d'autres candidats battent aussi campagne via Internet et surtout les réseaux sociaux.
Merci Babel Mpongo Massimango pour ces précisions. Et puis, poursuite des 16 jours d'activisme, une période d'interpellation de chacun pour savoir quel rôle jouer afin de réduire sensiblement les violences faites aux femmes. Le caucus des femmes pour la paix du Sud Kivu pense que cette période est cruciale car elle permet aux femmes d'élire des députés qui votent des lois protégeant la femme. Par exemple, la loi spécifique des violences basée sur le genre en RDC qui avait été proposé en 2022 par des organisations de l'Alliance stratégique de plaidoyer au Sud Kivu. La secrétaire exécutive du caucus des femmes du Sud Kivu affirme à Radio Okapi que cette loi n'a jamais été promulguée. Madame Solange Luachiga l'a dit à Rachel Kiesembangu.
Oui, nous sommes dans la campagne électorale. Les députés sollicitent nos voix et les femmes sont en train de se mobiliser. Et quand le député est voté, il est à Kinshasa. Quand les organisations de la société civile proposent une loi pour mettre fin aux violences faites aux femmes dans les violences domestiques, les députés élaguent la substance de la loi pour faire passer une loi presque vide. C'est l'expérience que nous avons vécue lors de cette législature en cours qui va se terminer, où l'Alliance stratégique des plaidoyers du Sud Kivu, nous avons proposé une loi au Parlement dans laquelle nous avons inclus les questions des violences domestiques. Mais cela n'a pas été retenu par les députés, mais ça c'est très grave. Si on a des députés, des représentants du peuple, mais qui ne comprennent pas l'importance de lutter contre les violences faites aux femmes, pourquoi les femmes devraient continuer à applaudir pour les députés, hommes particulièrement, qui ne voient pas que la femme, c'est la vie. Et si on protège cette femme, toute la communauté, la RDC, est protégée.
Restons dans la province du Sud Kivu où le prix du billet d'avion Bukavu-Shabunda a pris l'ascenseur pendant cette période de la campagne électorale. Ce billet est passé de 250 à 350 dollars américains. Constat fait à Bukavu par Madame Angèle Sadiki, candidate députée provinciale. Elle affirme à Radio Okapi que les opérateurs économiques le font pour gagner plus en ce moment où les candidats veulent mobiliser à tout prix leur base respectives, ce qui ne facilite pas la tâche aux candidats, surtout les femmes. Elle s'est confiée à Rachel Kiesembangu.
Mais je vous dis, pour arriver à Shabunda, c'est vraiment un casse-tête. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, pour votre information, ils ont doublé les prix des billets d'avion pour arriver à Shabunda pour chaque candidat. Moi, j'ai vécu ça, je reviens de Nyambembe, de Lulingu. Donc, j'atterris à Lulingu, ils utilisent les mots « se retrouver » ou « j'y retrouver ». Kila mutu anapenda j'y retrouver, moi, y période. Se retrouver derrière la souffrance et les calvaires que traversent déjà les candidats et beaucoup plus les femmes candidates. Ça, c'est pour chaque candidat. Je ne sais pas comment ça se passe pour les passagers ordinaires. Tout simplement parce que vous avez commis le péché d'être candidat ou candidate. Vous atterrissez à Shabunda, c'est un vaste territoire. La moto, déjà, les motocyclistes vous disent, nous devons aussi nous retrouver. S'ils savent que vous êtes candidat, vous êtes candidate, ils doublent ou ils triplent les prix. Vous voyez?
Actualité internationale.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont actuellement à Bamako pour l'opérationnalisation de la coalition qui avait été créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les trois pays sahéliens dont les autorités actuelles sont issues des coups d'État militaires. La ministre burkinabé Olivia Rwamba, son homologue nigérien Bakary Yaou Sangaré et leur hôte malien Abdoulaye Diop sont réunis ce jeudi pour donner à cette alliance une dimension politique et diplomatique.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du projet de soutien au PDDRCS au sein de la MONUSCO. Michael Nollet assure que ce projet va donner de l'emploi aux ex-combattants et aux personnes vulnérables recrutées au sein de la communauté locale, principalement les femmes et les jeunes. Il s'entretient avec Blaise Makassi.
Michael Nollet, vous avez participé au lancement des initiatives pilotes de réinsertion des ex-combattants, notamment dans les zones prioritaires de l'Est de la RDC. En quoi consiste ce projet?
Aujourd'hui, c'est le lancement du projet de support au PDDRCS qui est financé par le Fonds de cohérence pour la stabilisation. C'est un outil des bailleurs de fonds qui est utilisé par la MONUSCO et le gouvernement congolais pour supporter le PDDRCS. Aujourd'hui, vraiment, le projet est lancé. On a déjà fait des activités un peu depuis quelques semaines au territoire de Beni, essentiellement au site de Mabangu. Il y avait environ 150 rendus des ex-combattants qui étaient là depuis quelques mois et les premières activités ont consisté à les retourner dans leur famille d'accueil. Et la deuxième étape, c'est davantage la phase de réinsertion. C'est tout ce qui a rapport à le soutien socio-économique. Donc, il va y avoir des activités cash forward, des activités d'argent qu'on va donner aux ex-combattants pendant un certain temps, et aussi un appui psychosocial. Comment réintégrer la communauté, s'ils ont des traumatismes, s'ils ont des besoins peut-être d'appui médicaux. Il y a des femmes aussi dans ça qui ont été affiliées au groupe armé, qui ont besoin d'un appui plus spécifique. Donc ça va durer environ 6 mois. À partir de maintenant jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, on va avoir des activités avec les rendus qui étaient stationnés au niveau du site de Mabangu. Mais l'approche, elle est communautaire.
Sur quoi se fonde l'approche communautaire de ces projets?
Donc, tous les endroits où les combattants ou ex-combattants ont été réinsérés, on va aussi faire des projets avec les communautés pour s'assurer qu'il y ait vraiment une bonne cohésion sociale. Donc, c'est ça l'essence du projet aussi, c'est la cohésion sociale. Et donc, normalement, dans la stratégie nationale du PDDRCS, pour chaque ex-combattant qui est réinséré, nous prenons aussi 2 membres de la communauté, donc des gens qui seront inclus là, dans les projets, donc les projets d'argent, rémunération contre argent, de travail. Et surtout, ce qu'on entrevoit pour l'instant, c'est des travaux style cantonnage routier, déblayer les avenues, mais aussi des endroits qui sont peut-être stratégiques, comme des stades, les caniveaux aussi au niveau sanitaire, les parkings pour les motos. Donc, faire des petits travaux qui vont permettre visibilité au projet.
Et quel est, selon vous, l'objectif prioritaire de ces projets?
Donc, l'objectif prioritaire, comme j'ai mentionné, c'est la cohésion sociale et la réinsertion socio-communautaire des ex-combattants et le renforcement de la communauté. Donc, pour que la communauté soit capable de recevoir ces gens-là, il y a besoin d'avoir un paquet d'activités. Donc, comme j'ai mentionné, des dialogues, des activités économiques, des activités psychosociales. Et on vise aussi le renforcement du genre, donc que les femmes soient bien impliquées dans ce processus-là. Donc, on va participer avec les associations féminines à faire des activités aussi dans ce sens. Donc, cohésion sociale et renforcement socio-économique.
Quelle est l'implication des structures locales pour la réussite de ces projets?
Il y a le partenaire qui est celui qui gère le projet, c'est l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM en sigle, et vont travailler en ce moment. On est en train de recruter 2 organisations locales qui vont faire le volet socio-économique et le volet genre et bon, aussi le dialogue. Donc, il va y avoir au moins 3 ou 4 organisations locales du territoire de Beni qui seront employés dans le consortium de projet.
Et à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour la pérennisation de ces projets?
Donc ça, c'est une première phase, ce qu'on a appelé un projet pilote. Il y a déjà une deuxième phase qui est en cours de réflexion. En fonction des résultats, on attend de voir les premiers résultats et en fonction des résultats, on est en train de voir comment on va pouvoir faire la phase 2, qu'on appelle plus réintégration. La réintégration, normalement, c'est de plus d'une année. Ça peut peut aller d'une année à deux années, où là, il va y avoir des formations plus socio-professionnels que les membres de la communauté et les anciens combattants vont sélectionner. Par exemple, s'ils veulent faire, de la mécanique, la coupe et couture, la coifferie, de la boulangerie, bon, ça peut être toute chose. Et on a déjà des partenaires au niveau local qui pourraient faire ces formations-là. Donc ça sera dans la deuxième phase pour justement pérenniser les acquis de la première phase.
Michael Nollet, merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Capi, le coordonnateur du projet de soutien au PDDRCS au sein de la MONUSCO, Michael Nollet, interrogé par Blaise Makassi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.